Bonsoir. Radio Indie Media en direct de Copenhague, la deuxième fois en français. Désolé pour le retard. Voilà, tout s'est un petit peu bousculé, mais on a quand même un programme à vous présenter. Donc ce soir, on est deux, à savoir moi, Pierre.
Et moi, Nicolas.
Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu avec des reportages à l'appui de ce qui s'est passé un petit peu hier, même si on en a déjà parlé hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là hier. On va vous parler donc de la répression à Christiania un petit peu. On a un son sur la manifestation No Border qui a eu lieu hier, qu'on vous a un peu décrite dans l'émission précédente. Aujourd'hui, il y avait une manifestation sur les thématiques de l'agriculture et la souveraineté alimentaire, où on a également un petit son. Il y a eu des arrestations diverses dont on va vous parler. On a une interview sur rouler à l'huile de friture et un petit peu ce qui s'est passé dans ce contexte-là à Copenhague ces derniers jours. Et puis on aura quelques interviews, dont une de Benka qui n'est pas là ce soir, qui était là hier, et qui nous parle donc de comment il pense que ça va se passer demain pour l'action Reclaim Power. On a une autre interview dont je ne vous dévoile pas encore le contenu. Et on aura également une interview d'un clown qui explique un petit peu l'armée des clowns. Voilà. Donc, pour un petit peu se mettre dans le bain de cette soirée, on va commencer par un petit reportage sur la manifestation d'hier. Donc, on vous l'a déjà raconté, mais ça, c'était pris sur le vif. Voilà, donc, une petite seconde. Et nous allons commencer dès que j'aurai retrouvé le fichier, excusez-moi. Bon, comme on est en retard, je ne vous cache pas qu'on a un petit problème d'organisation. Et donc, je ne trouve pas... Ah, si, il est là. Toutes mes excuses. Donc, c'était la manifestation No Border qui a eu lieu hier. Et ça ressemble à ça.
The world, the nomadic way of life has become impossible. Private property enslaves those who do not own the resources that they need to survive. The laws of private property are at this very moment displacing and killing indigenous people all over the world. Private property is the core of capitalism, an ideology where profit is first priority. For centuries, imperialist countries have drained the global south for both resources and labor and the accumulation of power and profit.
Freedom of movement is our right! Fight! 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 Freedom of movement is our right!
Fight! Fight! Fight!
Freedom of movement is our right!
Fight! Fight! Fight!
Freedom of movement is our right!
Fight! Fight! Fight!
Ils sont en train de parler, je vois un cordon de flics qui se forme devant nous, qui là nous encerclent réellement. Ils ont toujours leurs casquettes. Là, il y a 30 secondes, il y a 2 minutes, on parlait, c'est-à-dire qu'il y avait un cordon qui venait de se former. Effectivement, il nous a bloqués. Ils voulaient pas nous laisser passer, ils s'avançaient vers nous. Et nous, on a été plus nombreux qu'eux à s'approcher d'eux, à lever les mains en l'air, montrant qu'on n'était pas violents, qu'on voulait pas les frapper. Ils ont sorti les matraques, on s'est un peu reculé, mais on est revenu à plus nombreux. Et là, du coup, ils reculent devant la pression citoyenne. Donc,
Tu veux dire ce qui s'est passé derrière eux ?
Derrière eux, donc, ils étaient encerclés en un sens, puisque nous étions le premier rang devant leur blocage à danser sur le son techno de la sono. Et derrière nous sont arrivées d'autres personnes qui étaient de l'autre côté et se sont mis à danser. Donc ils étaient pris en sandwich entre deux groupes de gens qui sautillaient.
Ce qui change des jours précédents un petit peu.
Eh bien, ce fut un blocage inversé.
Voilà, donc c'était une petite ambiance de la manifestation No Border d'hier. Donc, on voulait parler un petit peu de ce qui s'est passé hier à Christiania. Donc, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance qui régnait ici hier soir, il y a un son qui est déjà passé hier soir au milieu de la nuit hors programme, qui a été fait dans la chaleur de la nuit, on va dire. Et qu'on va vous passer, qui est une ambiance sonore, sans commentaire, mais qui montre un petit peu que, malgré tout, les habitants du quartier de Christiania, qui est de la commune libre de Christiania, n'étaient pas forcément contents qu'il y ait des émeutes chez eux. Et voilà, donc quelqu'un qui fait l'émission en allemand a fait ce son et nous l'a gentiment donné. Donc voilà, on en parle un petit peu après, mais ça va vous plonger dans l'ambiance de révolte ou d'émeute qu'il y avait hier ici.
Yeah. We're all living in Woodhouse. houses. What are you thinking at?
Outside in Copenhagen, not in Christiania.
So you had to burn
because
ours?
Because you burned down whole Christiania.
Fuck you!
You destroyed Christiania.
Yeah. Fuck you!
But you do now because there's a lot.
What the fuck, man?
Put water on now. What are you thinking at?
It's Christiania.
Fuck
you. In the town and doing that here.
Yes, I live in 10 meters from here, you idiot.
I live in this house here.
Yeah, it's all wood houses. What are you thinking at?
All the water should be free, not only Christiania. Please.
Then put some water on it. We are paying for the water, you fuckass.
Hold.
Du kraftedeme en idiot, mand. Du burde bare sagt ja.
Må jeg tage et billede af dig, så der jeg også kan på den her side af historien?
Nej.
Nå.
What the fuck are you doing, man? What the fuck are you doing, you wanker? Get the fuck out of here, man! Hijo de la gran puta, vete a la mierda! Fuera! Cerdo de mierda! Me estás tocando los cojones! Los cojones! No me los toques! Vete a la mierda, quema la puta ciudad! ¡Hijo de puta!
¡Fucking idiota, man!
¡Pera, man! ¡Fucking psicopera! Oh, fuck you, asshole!
Wanna see my ass?
Yeah!
Fuck off, man! Get out in the fucking streets and do the fire!
Fuck you!
What's the deal? You can't get it, man! Get to the streets! Get a free line, man! Come for Gale! Come for Gale! Get out in the streets and do the fire!
Puta!
Right in Chris Gale, thousands of times!
Fuck you!
Fuck you!
You know what?
Come on, come on, come on, come on, come on, come on,
det er tagbart tag hele vejen ned igennem, mand. Amatør fucking lidt, de er pisse ligeglade med miljøet, de er pisse ligeglade med alt. De vil bare have riot nu. Amatør riot, så går du op til Vestergaard, vi har traditioner her for fanden.
You always say amateur, the understand you right? You say amateur?
Yes,
yeah, amateurs.
You are a fucking amateurs, man.
When we fight, we go outside and you can run in here and hide and make the fight.
Man. Not here, man.
Fight the streets.
The police don't care if Christiania burns down. They love it. They hate Christiania. They would love this building to burn. So they're not gonna move in. There's no fire department. No one is gonna come to shut down the fire in here.
Yeah. So you're more afraid of the fire than of the police?
Yeah, of course,
man.
It's
every day here, man. When we fight outside, you know what I mean?
No problem there.
This street is always closed, you know.
But we
fight there with the police.
The fuck out.
No, fight them.
If you want fight, you can fight there, commune, you know, the side, yeah. But then, not this one.
Not
here,
like
right?
That, not like fire.
Yeah.
Two other things. Why are you fucking coming here? Driven up a shit.
Voilà, nous revoilà en direct. Du studio pour Radio Indie Media spécial Copenhague en français. Donc voilà, c'était une ambiance, c'était un petit peu long, on l'a un petit peu utilisé pour s'organiser aussi, mais c'était l'ambiance qui régnait hier soir dans les rues de Christiania avec des habitants qui, malgré une certaine solidarité vis-à-vis des manifestants, trouvaient ça un petit peu dangereux et disaient entre autres. Si Christiania brûle, les policiers viendront jamais éteindre le feu puisqu'ils seront contents que ça brûle, puisque c'est un statut un petit peu particulier dans Copenhague. Et voilà, donc c'était pour vous donner l'ambiance. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des tirs de gaz lacrymogène très très nombreux, qui je pense ont eu des influences assez... importante puisqu'on a vu plusieurs personnes avoir des vomissements assez violents la nuit qui a suivi l'exposition à ces gaz lacrymogènes. Donc je pense que c'était des gaz très concentrés. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, de ton expérience des gaz lacrymogènes.
Nicolas, expert gaz et vomissements. Donc oui, enfin bon, c'est juste un témoignage, mais c'est vrai que quand on est rentré à notre hébergement, on allait se laver les dents et quelqu'un vomissait à s'en arracher les boyaux. Et dans notre chambre, en pleine nuit, quelqu'un s'est levé en toute précipitation et a vomi dans un sac de... pas de couchage, mais un sac plastique. Donc deux personnes qui ont vomi, qui n'avaient pas non plus mangé des calamars avariés la veille au soir, donc qui toutes les deux étaient à Christiania. Donc effectivement, ça, bon, c'est juste un exemple du type de gaz que la police a pu employer. Et peut-être le point qu'on peut préciser, pourquoi est-ce que la police a gazé Christiania ? Donc, Christiania, c'est une commune libre, ou libéré dans Copenhague, et la police n'a pas le droit d'entrer dans Christiania, ce qui fait que quand il y a eu des provocations, alors l'origine est un peu floue, mais on va dire qu'il y a eu une provocation, qu'elle soit due par des éléments manifestants, altermondialistes, ou par la police elle-même, peu importe. Mais il y a eu donc un début d'émeute et de barricade, et dans ces cas-là, la police n'intervient pas, elle boucle le quartier, et une fois que le quartier est bouclé, elle gaze à tout va. Et donc on a eu donc ce matin notamment une copine qui a vomi cette nuit, a raconté un petit peu ce qu'elle a vécu dans Christiania, puisqu'elle y était pour la soirée soutien à l'action Reclaim Power de demain mercredi. Et donc ils étaient là, l'ambiance était bonne, il y avait une musique intéressante, enfin bon, rien du tout d'effervescent en termes d'insurrection. Et ils se sont retrouvés au milieu des gaz, sans trop de possibilités de s'échapper. Et ils ont donc dû respirer des gaz pendant très longtemps, sans trouver de moyens d'échappatoire. Donc voilà un peu ce qui s'est passé hier soir sur Christiania. On peut préciser que d'après les sources qu'on a, c'est 196 interpellations hier soir. C'est du chiffre, puisque la plupart des gens ont été relâchés durant la nuit. Je ne sais pas, nous ne savons pas combien de personnes ont passé la nuit complète en garde à vue, mais voilà un peu le chiffre aussi qui donne une image un petit peu de la manière dont la police commet des rafles depuis le départ de ce contre-sommet, du moins depuis ce samedi.
Voilà, et donc ce qu'on pouvait lire aussi sur le ticker d'Indie Media Danemark, c'est que trois activistes d'Indie Media qui étaient là pour couvrir un petit peu ces événements se sont fait aussi arrêter, puisque beaucoup d'activistes d'Indie Media n'ont pas de carte de presse et ne sont donc pas protégés. Et voilà. Donc c'est un dangereux métier que de vous rapporter ce genre d'informations. Un dangereux hobby. Sur cette thématique, donc si vous voulez en savoir plus, il y a des vidéos de comment ça s'est passé. Vous allez sur le site d'Indie Media. .dk et vous trouverez beaucoup d'informations complémentaires. Donc maintenant, on va peut-être un petit peu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, à savoir la manifestation. Tu peux en parler mieux que moi, Nicolas, puisque tu y étais.
Et oui, encore une fois, j'étais pour vous présent sur les manifestations qui ont eu lieu lors de ce contre-sommet. Donc là, c'était une action, une manifestation sur la question de l'agriculture. Bon, on sait très bien effectivement qu'une agriculture intensive et qui est basée sur l'exportation est source de pollution, de dégradation et de la qualité de nos aliments et de la qualité de l'environnement via des pollutions diverses et variées. Donc cette manifestation à laquelle appelait notamment la Via Campesina a été l'occasion donc de réclamer une reconnaissance des droits de la paysannerie, des paysans, pour une agriculture qui ne soit pas une agriculture à base d'intrants chimiques, mais qui soit une agriculture respectueuse des droits environnementaux et sociaux, que ce soit une agriculture pour le niveau politique qui soit également reconnue en tant que telle et qui ne soit pas délaissée au profit de la conquête des marchés extérieurs, comme on peut voir avec les subventions de la PAC, et qui sont des subventions à l'exportation. Donc voilà, c'était cette question-là de l'agriculture dans la société. Comment on veut se nourrir? Quel est le rôle de la paysannerie au niveau global dans le devenir, dans nos devenirs Voilà, donc... Voilà.
Donc si, pour donner un petit peu une ambiance de cette manifestation, on va entendre la même voix puisque Nicolas a fait une auto-interview en rentrant de cette manifestation où il décrit un petit peu ce qui s'est passé, mais c'était plus chaud que maintenant, donc il y a quelques heures. Donc voilà, on va vous passer ce petit son. Donc merci Nicolas.
Salut, c'est Nicolas. Donc je reviens de la manifestation pour défendre la souveraineté alimentaire qui était proposée par Via Campesina principalement. Très bonne manifestation qui est partie à midi d'un endroit pas très loin du Climat Forum. Nous avons fait un tour du centre-ville par les boulevards extérieurs. Donc nous avons contourné l'hypercentre par l'est. Et nous sommes revenus place de l'hôtel de ville en plein centre. Donc là à l'instant à 3h30. Donc pendant 3h30 nous avons marché au rythme des slogans l'éco-blanchiment et du lavage de cerveau. Greenwashing is brainwashing. Rythme de la batucada qui nous a également accompagné tout le long de ce parcours. C'était vraiment une bonne manifestation. La police, pour revenir sur elle, puisque son comportement, comme on a pu le dire, a changé ce lundi, beaucoup plus peaceful qu'elle ne s'était comportée ce week-end, samedi et dimanche. Donc pas de problème, ici tout va vraiment très bien. Et c'est aussi une manifestation qu'on a pu faire sous les flocons de neige, puisqu'il il neige ici à Copenhague. Bon, cette manifestation faite, là je me dirige vers le Climat Forum pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Ça fait quelques jours que je n'y ai pas mis les pieds, depuis dimanche. Donc voir un peu les évolutions et avoir quelques infos de ce qui se passe au Bella Center, puisque des gens accrédités pour rentrer à Bella Center font souvent le va-et-vient, les allers-retours entre le Climat Forum et le sommet officiel. Donc j'essaye de vous tenir informé des évolutions des négociations, sachant que c'est après-demain qu'arrivent les chefs d'État pour essayer d'aboutir à un accord, ou du moins, à défaut, définir un agenda pour d'autres réunions qui permettront peut-être, elles, d'aboutir à un accord. Écoutez, sur ce, je vous laisse. À tout bientôt.
Voilà, et tout bientôt, c'est maintenant, puisque Nicolas est toujours là. Il va nous parler de quelque chose d'autre maintenant qui s'est passé cet après-midi, qui était aussi un petit peu assez surprenant quand on a eu la nouvelle.
Effectivement, c'est quelque chose de, je dirais, d'assez grave qui s'est passé aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, hier soir à Christiana, il y avait une soirée de soutien à l'action de Reclaim Power qui a lieu ce mercredi. À la tribune, à un moment des gens parlaient, notamment Naomi Klein, Michael Hart et un certain Tadzio, qui est, on va dire, animateur du Climate Justice Action, CGA. Coalition, on va dire, d'obédience libertaire mobilisée sur le sommet contre le sommet de Copenhague. Donc il intervenait à cette tribune le soir, faisait la promotion donc de la non-violence pour les actions retenues pour ce mercredi dans l'action Reclaim Power. Donc et quelqu'un qui apaisait toutes les tensions qui pouvait encore exister. Il était aujourd'hui à Bella Center et on est sorti à 16h. Et à 16h, à sa sortie, la police l'attendait et l'a donc arrêté. Donc arrêté comme ça, sans motif, ça veut dire, grâce à la nouvelle loi danoise de début décembre, une arrestation préventive. Donc toute personne qui est dans un cortège militant ou qui, par des signes extérieurs, semble vouloir s'y rendre, peut être arrêté par la police de façon préventive et reçoit 6 heures ou 12 heures minimum de garde à vue. Donc c'est une manière assez simple d'écarter certaines personnes de la mobilisation. Et là, c'est effectivement ce qui s'est passé. Tadzio s'est fait arrêter la veille de l'action qu'il coordonne avec d'autres depuis de longs mois. Donc c'est une manière pour la police de porter un premier coup, on va dire, contre la structuration de l'action de demain. D'un autre côté, cela n'enlève rien à notre détermination. Nous sommes plusieurs motivés, convaincus de du bien fondé de l'action de demain, de cette volonté qu'on a d'ouvrir un peu les barrières, de ne pas réserver les débats à ceux qui ont un badge, mais vraiment de l'ouvrir à tout le monde. Donc nous prenons acte de l'arrestation de Taggio, mais nous persévérons, nous serons là demain matin pour notre action Reclaim Power.
Donc je pense qu'il faut préciser, il me semble que tu ne l'as pas dit, mais qu'il s'est fait arrêter après une conférence de presse qu'il tenait. Il me semble, selon ce que j'ai entendu.
Je ne l'ai en effet pas précisé, parce que je n'en savais strictement rien.
Son arrestation, en tout cas dans les dernières informations que j'ai eues, a eu lieu à la sortie d'une conférence de presse qu'il tenait donc, pour la coalition Climate Justice Action. Ce qui est quand même assez terrible de se faire arrêter après sa propre conférence de presse. Si vous ne croyez pas me dire, allez vérifier sur indymedia.dk. Mais en tout cas, tout à l'heure, quand je faisais le montage au centre Indymedia, c'était l'information qui est arrivée. Donc, il y a eu aussi d'autres arrestations aujourd'hui, quoi. Une action avant tout, et qui a été suivie d'une arrestation de Français d'ailleurs. Donc, tu peux en parler un petit peu ?
Avant de parler des Français, j'aimerais juste parler d'une autre arrestation qui a eu lieu aujourd'hui, enfin d'une descente surtout. Une descente des flics, à peu près à la même heure que se faisait l'arrestation de Taggio, à savoir que les flics sont descendus sur le site où était hébergé le bike bloc, c'est-à-dire l'une des composantes qui participe également ce mercredi à l'action Reclaim Power. Donc ils ont un atelier de vélo, de réparation de vélo, chacun peut y aller, je ne sais plus à quelle heure dans la journée, pour bricoler un vélo, le retaper, pour pouvoir participer à l'action de demain, selon les modalités que le bike bloc, donc le bloc des vélos, le bike bloc a défini. Donc il y a eu, je crois, beaucoup d'arrestations, d'interpellations, et il doit n'y avoir qu'une seule personne en garde à vue, ce qui, bon, n'est pas trop mal quand même. Et sinon, il y a eu aussi pas mal de bicyclettes, enfin pas mal, plusieurs bicyclettes confisquées. Donc c'est une pression supplémentaire sur l'action de demain.
Alors, pareil, si j'ai bien compris, il y a aussi eu un certain nombre d'objets non identifiés qui ont été saisis à cet endroit-là par la police, que les observateurs n'ont pas pu vraiment identifier ce que c'était. En tout cas, au moment où j'ai quitté le centre Indymedia, on ne savait pas ce que c'était. Mais on parle de marteaux, de boulons, de tournevis, donc des choses qui dans un atelier vélo ont tout à fait leur place, mais qui pour la police danoise est considérée comme certainement une cache d'armes, puisque avoir des boulons, c'est certainement pour en faire quelque chose de méchant quand on travaille dans un atelier vélo. Donc à tous les ateliers vélo, ramenez vos boulons à la police.
Et donc maintenant, effectivement, pour aborder la question des Français, puisqu'on est quand même une radio francophone, donc on va s'intéresser un peu aux Français. Il y a donc deux bus qui sont arrivés, qui ont été mis en place par les désobéissants, et qui sont venus depuis Toulouse, en passant par Paris et Bruxelles, jusqu'à Copenhague. Donc les désobéissants, pour ceux qui ne connaissent pas, je présente en deux mots. Il s'agit pour ce collectif monté il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans et demi, de faire des actions de désobéissance civile non violente. J'insiste sur la non-violence, dans le but de faire donc évoluer la loi et de dénoncer des situations injustes. Alors ces situations-là peuvent être très nombreuses et les désobéissants participent à de très nombreuses actions, que ce soit sur le nucléaire, sur la question du logement, sur la question des
de la publicité, des OGM.
Oui, mais j'allais le dire tout ça. Donc voilà, les désobéissants sont venus ici à Copenhague grâce à deux bus militants, l'un de Toulouse et l'autre de Pau, caravane solidaire. Et c'est justement celui de Caravane Solidaire qui va peut-être plus nous intéresser ce soir, puisque les gens de ce bus, alors pas l'intégralité, mais une partie, sont allés faire un sit-in devant une salle qui doit être attachée dans les activités du Climat Forum, une salle donc près de entre la gare et le Climat Forum, où avait lieu, je vais pas trop m'avancer, quelque chose dans lequel Ségolène Royal intervenait. Et ils ont fait un sit-in devant cette salle. Bon, un sit-in sur un trottoir, ça ne gêne pas grand-chose. Sauf que là, la police les a tout simplement arrêtés. Donc, on peut escompter qu'il s'agisse d'une arrestation préventive ou de 20 arrestations préventives et que personne ne reste plus de 6 heures en garde à vue. Donc, à l'heure à laquelle on parle, ils sont certainement, enfin, peut-être, relâchés.
En tout cas, on espère.
Nous pouvons espérer, effectivement. Bien que s'ils ne sont pas relâchés, ça nous fera plus de place dans la chambre. Et donc, voilà. Voilà un peu ce qui s'est passé à propos de cette action. Donc je suis un peu flou sur l'action parce que j'en connais pas les tenants et aboutissants. Et on est également dans le flou sur la question de sont-ils relâchés ou pas. Mais ça, c'est normal, c'est par rapport à l'heure, comme ils ont été arrêtés il y a moins de... Enfin, il y a environ 6 heures. Par rapport à cette caravane solidaire...
Juste pour t'interrompre une seconde... Aux dernières informations que j'ai pu récolter à droite et à gauche, ce qui avait lieu, donc je n'ai pas une précision non plus exemplaire, mais sur cette réunion à laquelle, ou cet événement auquel participait Ségolène Royal, a été une forme de réunion des représentants de régions de l'Europe sur des engagements un petit peu bidons au niveau des réductions des gaz à effet de serre. Et donc c'est pour ça qu'en tant que présidente de la région Poitou-Charentes, Ségolène Royal était présente. Et donc les désobéissants du bus dont tu vas parler ont fait donc ce qu'on appelle un petit train ou une tortue. Je ne sais plus exactement la stratégie qu'ils ont utilisée, mais donc qui est une forme de chaîne humaine relativement difficile à enlever. Et donc... la police est intervenue. Ce n'est pas non plus très clair si les organisateurs de cette rencontre ont appelé la police ou si la police est venue spontanément. Donc je ne m'avance pas sur ce point. Et donc, voilà, a priori, selon un témoin que j'ai vu après, la police donc a dit qu'ils allaient les enlever, quoi, les faire partir. Les désobéissants ont dit partir, pourquoi pas, mais alors aucun contrôle. La police a dit non, si vous partez, on vous contrôlera tous. Et donc ils ont décidé de rester, de résister par la non-violence. Et donc ils se sont fait arracher les uns après les autres de leur petit train. Voilà, je n'ai pas encore vu les photos puisqu'il y avait un petit problème technique quand la personne qui avait pris les photos est venue, mais si vous regardez sur les différents sites Indymedia, je pense que d'ici demain il y aura des photos de cette action de blocage et de son nettoyage par la force de police. Donc tu voulais un petit peu présenter le bus avec lequel tu es venu? Avec lequel les désobéissants sont venus?
Non, affrété par les désobéissants. Oui, c'était pour faire la transition simplement avec le reportage suivant. Ce bus des désobéissants, caravane solidaire, donc conduit par Bruno de Pau, roule à l'huile de friture. L'huile de friture donc, qui a pour but d'être sur une base de recyclage, puisque c'est de l'huile qui a déjà servi, qui est donc collectée dans les kebabs, dans les cantines scolaires, enfin dans les différents endroits où on peut utiliser de l'huile, récoltée à ce niveau-là, ensuite légèrement traitée pour servir avec du mélange de fuel classique, enfin d'essence classique, de carburant. Donc là par exemple le bus roulait 50% huile de friture, 50% essence. Et juste une anecdote, histoire de rire, bien que ça puisse ne pas nous faire rire, nous qui rentrons avec ce bus, jeudi prochain, comme c'était planifié, c'est que vendredi dernier, au moment où, en fait, où a commencé le déploiement policier dans la ville de Copenhague, et avec des barrages à la sortie du village CGA où nous sommes, c'est que le bus s'est fait arrêter. La police a regardé le bus rapidement et a avisé les quelques bidons d'huile qu'il y avait sur la galerie sur le toit. Et donc, elle a exigé que ces bidons soient descendus. Et elle n'était prête à ne les rendre que le lundi 21, à la fin du sommet, de peur qu'il y ait des
attentats.
Voilà, des composants explosifs, que ça serve de composants explosifs à d'autres actions. Et là, il y a une négociation qui a été mise en place et la police scientifique s'est dite prête à faire des tests sur cette huile pour voir si effectivement il y a une possibilité qu'on s'en serve comme explosif ou pas. Et si on ne peut pas s'en servir comme explosif, elle serait peut-être prête à nous les rendre jeudi ou mercredi soir, donc demain soir, pour que l'on puisse rentrer comme prévu en partant de Copenhague jeudi matin.
Donc rappelons-le, un explosif, ça peut se faire avec n'importe quoi qui se trouve dans par exemple, de l'essence et de l'huile mélangée. Ou l'essence toute seule permet aussi, quoi, les allume-feux, ça permet aussi de faire ça. Donc finalement, n'importe quoi, une fourchette permet certainement de faire exploser quelque chose si on sait s'y prendre à la MacGyver. Donc je pense que la police scientifique arrivera à démontrer que l'huile de friture permet de faire exploser des choses, si elle est mélangée avec de la nitroglycérine par exemple. Donc on écoute peut-être cette interview de Greg, c'est ça ?
De Greg, tout à fait.
Roule ma frite, qui est une association, mais le reportage, la petite interview parle d'elle-même, donc on y va.
Alors nous, on est une asso d'éducation à l'environnement. Alors à 3 ans, en mars prochain, en fait, on récupère des huiles de friture usagées dans des restaurants, des cantines, des campings, dans les fêtes de village, l'hôpital public, etc. Partout, il y a de l'huile. Donc, on revalorise localement dans une station de filtration qu'on s'est installée sur Oléron. Et ensuite, on l'utilise ou donc dans les véhicules qui roulent au diesel, 30, 50 ou 100%, ça dépend de l'état du moteur, des modifications potentielles. Et également, en mix avec du fuel. Donc ça, c'est pour les chaudières ou pour les machines-outils. Donc, nous, on s'appuie sur 2 directives qui datent de 2003 et 2004, je crois. Qui engagent les États membres à élargir leur mix énergétique et l'autre côté à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le volet transport. Donc on se base là-dessus. C'est 2 directives qui n'ont pas été retranscrites en droit national. Donc du coup, on a travaillé nous depuis le début en mettant noir sur blanc ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui roulent à l'huile aujourd'hui. Il y a un super site qui s'appelle Oliomobile qui regroupe toute la communauté des rouleurs. Beaucoup de personnes qui roulent à l'huile, qui donnent des infos sur la manière de faire, comment ça fonctionne, etc. Et nous, le parti pris qu'on a eu, c'est de dire, on va discuter avec les services de l'État, direct, et pour faire en sorte qu'il y ait des expérimentations qui soient menées avec eux, pour faire justement évoluer la législation. Et donc là, c'est ce qu'on a pu faire avec le ministère de Développement Durable, le ministère de Budget, pour les histoires de taxes, TIPP et tout, pour faire tourner un petit train touristique à l'huile de friture usagée sur Léon. Et donc après, en parallèle, on a des adhérents qui roulent à l'huile. Et après, du coup, on a des quantités dont on peut servir dans des projets là, comme celui de Copenhague avec la caravane solidaire, pour que ce voyage en bus, donc on est parti à 33, je crois, de Paris, bah plutôt qu'on soit à 100% diesel, qu'on soit 50% diesel, puis 50% de l'huile de friture récupérée, revalorisée. Et là, l'expérimentation qu'on a avec le petit train, elle nous coûte beaucoup d'argent. Il faut faire des analyses de gaz, à tel point que le labo avec qui on va travailler, qui doit être labellisé COFRAC, ça s'appelle, nous a dit, quand on lui a envoyé ce que le ministère du Développement Durable nous avait fait suivre pour les mesures de gaz, on nous a dit, mais vous travaillez avec la NASA ? On a dit, non, pourquoi ? On dit, parce que ce qu'on vous demande, c'est incroyable, quoi. Et eux, pourtant, c'est leur travail, c'est leur labo de faire des accréditations, des labellisations là-dessus. Et on leur a dit, non, c'est pour un petit train. Et du coup, on nous a dit, mais attendez, c'est démesuré, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande en termes d'investissement pour faire une expérimentation sur 800 litres d'huile dans un petit train touristique, c'est extrêmement surdimensionné en termes de coûts, de moyens d'investissement humain par rapport à la réalité opérationnelle quoi, du petit train. Et donc nous, notre objectif, c'est que partant de ce travail avec le petit train, on réussisse à faire à poser une première pierre, à dire bah, regarde, on était capable de le faire là. Maintenant, ça veut dire qu'on peut dupliquer le modèle ailleurs avec d'autres gens, parce qu'on récupère un déchet, nous. C'est-à-dire que c'est une fois que c'était utilisé de manière alimentaire, cette huile, qu'on la récupère, qu'on la revalorise. Quand la plante, à la base, le colza, le tournesol, a poussé dans le cadre de sa photosynthèse, a capté du carbone. Donc, du coup, quand on rejette du carbone dans la combustion moteur, on a déjà du CO2 qui était dans l'atmosphère. Donc, on est en circuit fermé. À la différence des produits hydrocarburés, on prend une matière qui n'existait pas, on la brûle, on rejette du CO2. Quoi. Non, c'est qu'à chaque fois, on puisse bosser localement avec des assos sur place qui déjà sont engagés dans les mêmes politiques, c'est-à-dire éducation, environnement, solidarité, réflexion globale sur la gestion des territoires, etc., pour qu'on ait cet outil, là, ce modèle, récupération de l'huile, transformation, distribution, sous l'aspect du logiciel libre, qui puisse se dupliquer. Parce qu'après, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe sur Olio Mobile, c'est quand il y en a un qui arrive à faire quelque chose de bien, que ce soit en filtration, modification moteur ou ce que tu veux, hop, il le partage avec les autres. Donc le deuxième va le récupérer. Enfin, voilà, c'est du Linux, Linux avec de l'huile. On travaille avec beaucoup avec les écoles ou les centres de loisirs. Là, on a mis en place des cahiers de doléances, donc le même principe que ceux de la Révolution française, mais sur le climat, qui ont été remplis à la fois par des élèves de CM1, CE2, deux classes mixtes, et une classe de seconde, donc dans l'île d'Oléron, au Château et à Bourg-Franc. Et avant, on avait appelé l'ambassade de France pour leur remettre de manière officielle ces cahiers dans le cadre du travail qu'on a fait avec les enfants. Parce que tout ça, on l'a filmé pour en faire un docu de 90 minutes. Donc on est arrivé devant le premier secrétaire de l'ambassade de France, qui s'appelle M. Wagner. On lui a remis les cahiers, il nous a reçus, lui nous a annoncé qu'il allait les remettre à la délégation française également. Donc voilà, on essaye de travailler en parallèle aussi avec les services de l'État pour leur dire, bah, voilà, il y a des enfants qui sont des citoyens, puissance, ou qui sont des enfants, qui sont des citoyens en devenir. C'est important pour eux qu'ils voient comment fonctionne la représentativité nationale. Donc on a remis les cahiers à notre maire, on a remis les cahiers à notre député, là on est venu les mettre à l'ambassade. C'est-à-dire qu'on suit les réseaux et les échelons, les règles mises en place par l'État. Quoi. On suit ce truc-là. Quand on était voir le MEDAT, on a fait des réunions, début du... On suit les règles, on respecte ces règles-là. Et maintenant, ce qu'on dit nous, c'est que, ok, on fait des efforts pour respecter vos règles et qu'on puisse discuter à la même table, mais ce qui est intéressant, c'est que vous aussi, vous puissiez faire des efforts de notre côté pour essayer de comprendre qui on est et pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut passer à la comptabilité carbone pour intégrer le coût carbone des produits, toujours, autant dans leur analyse de cycle de vie que dans leur coût à leur valorisation, les ponctions sur les ressources primaires au départ, toutes ces choses-là qui aujourd'hui n'existent pas. Et ce qu'on a appris là, c'est qu'a priori, il y a des gens, des ONG qui ont des accréditations, donc là on est dimanche soir, à la COP15 qui réfléchissent a priori à rentrer dans une grève de la faim, enfin, c'est ce que j'ai entendu, parce qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre. Et nous aujourd'hui on a fait une action là sous Tivoli où il y a une grosse planète Terre qui est sponsorisée par Siemens pour dire stop climate branding, c'est-à-dire faut arrêter de faire du green business autour de ce truc-là. Quoi. Nous avec Roule-Mafrit, ce qu'on fait dans notre exemple, c'est pas du tout pour être des pompistes. Quoi. Quand l'année dernière, il y a des pêcheurs français qui ont bloqué les terminaux pétroliers, du coup, il n'y avait plus du tout d'huile, enfin de pétrole en France, les prix ont vachement monté. Il y a plein de gens qui nous ont appelés, et parce qu'ils voulaient rouler, quoi, toujours. Et nous, ce qu'on leur dit, mais non, on n'est pas là pour fourguer un carburant moins cher, c'est-à-dire que si tu fous de l'huile dans ta caisse pour prendre ta bagnole et t'acheter des clubs à 300 mètres, il n'y a rien compris. Il y a toute une série de modèles, nous, dans le milieu rural, le covoiturage, il faut faire des efforts énormes là-dessus, quoi. Les cycles courts, l'achat groupé, enfin, je veux dire, il y a des tonnes de choses à remettre en place et à recentraliser le débat. Tant qu'on reste sur des fondements archaïques de comptabilité de la richesse, principe de la sacro-sainte croissance, etc., c'est baisé. Et les 350 ppm, on l'aura dans le cul, jamais on restera en dessous. Quoi. Quand nous, on fait de la collecte, on n'a pas un objectif, c'est-à-dire que le matin, on ne se lève pas, il faut qu'on collecte 700 litres. On sait qu'on doit faire de la collecte, on sait qu'on a du taf à faire, mais si à un moment donné on rencontre un pote ou si on doit discuter avec un restaurateur d'un point très précis, si ça prend une heure, ça prend une heure, si ça prend 10 minutes, ça prend 10 minutes, puis basta. Et donc le fait de faire ces échanges, on est un peu des... c'est une copine qui nous a dit ça, qu'on a un peu des passeurs ou un peu comme des colporteurs, un peu comme ce bus de la caravane solidaire, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as de la transversalité, de la mobilité, eh ben, tu es vachement riche de ce que tu entends et de ce que tu échanges, et puis du coup quand tu recroises quelqu'un après, tu peux repartager ce qui se passe. Donc là on s'est dit, bah, si on arrive à mettre ça en image, en faisant des petits films ou des petits trucs, quand il y a un mec d'un camping qui fait des choses vachement bien, si on rediscute avec un autre mec d'un camping, sinon on lui dit tu devrais faire ci, ça va peut-être le saouler parce qu'il y a d'autres choses à faire. Si on lui montre un film où il y a un autre mec d'un camping le même camping que lui, tu vois, 300 emplacements, bidule, qui a fait la même chose et qu'en plus il le connaît, bah, il sera plus enclin du coup à bosser, quoi. Et là, ça nous est déjà arrivé, par exemple, pour la gestion de la flotte, des économies d'énergie d'eau, des économies d'énergie d'électricité, pardon, de l'achat de produits bio ou locaux, tu vois, en circuit court avec des AMAP. Donc voilà, ça tourne, quoi. C'est pourquoi, voilà, on était à Copenhague pour rencontrer d'autres gens, ce qui se passe avec la caravane solidaire, tous ces gens qui viennent d'ailleurs, d'autres sujets de convergence, de réflexion, de travail. Voilà, pour agir ensemble. Puis là, donc du coup, ce qui nous arrive ici à Copenhague, voilà, c'est débile, quoi, parce que les flics se pointent, notre bus sort de l'endroit où on dort pour apporter de la bouffe à Via Campesina, je crois. Et là, les flics arrivent, hop, ils nous embarquent notre huile qu'on avait prévue pour le retour, 250 litres. Ils ont même piqué 12 litres d'huile d'olive bio en disant qu'on pouvait en faire des armes derrière. Donc là, sans déconner, on marche sur la tête, en pleine conférence de Copenhague, qu'on se fasse arrêter par des flics qui nous prennent de l'huile pour faire des armes, et en plus de l'huile d'olive bio. J'imagine que si c'est pour Via Campesina, en plus ça a dû être fait dans des conditions clean, machin, etc. Voilà, ça va pas du tout, quoi. Donc là, voilà, on lance un appel aux Danois, de tous les gens qui ont de l'huile de friture chez eux et qui doutent de la dangerosité de ce produit, peuvent et doivent les ramener dans leur commissariat, voilà, pour éviter les dangers, comme le disent la police. Et puis nous, il faut absolument qu'on récupère 250 litres usagés avant de partir jeudi matin. Bon, je crois qu'on repart à 5h du mat ou un truc comme ça, pour aller les échanger contre nos 250 litres à nous, quoi. Donc imaginons que tu fasses du fret par bateau ou par avion. Combien ça coûte en termes de prix de faire ce fret? Imaginons que ça coûte 1000 euros, tu vois, par exemple. Ça, c'est le prix marchand. Et là-dessus, tu rajoutes le prix carbone de ce fret. Par exemple, 10 tonnes en avion, si tu fais la compensation carbone, ça rajoute 1000 euros. Tu vois, je fais n'importe quoi. Donc ça veut dire que cet échange demain, il aura coûté réellement 2000 euros. Tu vois ce que je veux dire? En termes d'empreinte écologique. Et ça, personne ne le paye. Tu vois, aujourd'hui. Et bien donc, du coup, ce qu'il faut arriver à comptabiliser, c'est l'ensemble de ces flux financiers avec le coût carbone, ce que ça représente. Et on voit sur un an ce que c'est. Tu divises par le nombre de flux financiers chaque jour et ça te donne le pourcentage de taxes que tu imposes, quoi. Et comme ça, les banquiers, ils arrêtent de nous faire chier. Tu vois, faut arrêter la financiarisation de l'économie qui circule, machin, bille. C'est de la connerie tout ça, c'est de la connerie jusqu'au bout, c'est un modèle qui marche pas, qui est sur la tête, qui crée des catastrophes incroyables. C'est pas normal et c'est pas possible qu'il y ait aujourd'hui encore tant de chiffres qui circulent sur le nombre de gens qui n'ont pas d'accès à l'eau, le nombre de gens qui ne peuvent pas bouffer, le nombre de gens qui meurent de telles maladies. Je veux dire, c'est pas possible, on peut pas.
Merci Anne Finet pour Have you ever been in jail for justice? Avez-vous déjà été en prison pour la justice?
Salut Benka, tu as quelques nouvelles
non,
là
stop,
au niveau des...
Stop. Nicolas m'a interrompu sur la playlist. Voilà, c'était le reportage sur Roule ma frite. On espère qu'ils vont récupérer leur huile. Hein,
Il faudrait qu'on rentre, oui.
Donc voilà, il y a le numéro de téléphone, on l'a donné hier, et malheureusement, je ne l'ai pas noté. Celui auquel on peut appeler le commissariat pour les faire chier. On vous le redonnera un petit peu plus tard. Donc si vous voulez appeler le commissariat pour leur dire que l'huile est dangereuse et qu'il faut rendre l'huile au bus, vous pouvez encore le faire. En pleine nuit, c'est plus rigolo aussi. Hein. De toute façon, ils doivent s'emmerder, il n'y a pas grand-chose qui brûle.
Pour récupérer le numéro de téléphone, en fait, il suffit d'aller sur le site des désobéissants. Il est en première page, donc c'est www.désobéir.net. Et là, vous trouverez sur la première page le numéro du commissariat au Danemark auquel il faut appeler.
Voilà, la plupart des francophones ont maintenant peuvent appeler dans toute l'Europe gratuitement, donc profitez de ce privilège et faites-les chier. Comme ça, ils rendront l'huile. Hein, parce que... Voilà. On va continuer sur une petite interview de Benka que Nicolas a fait tout à l'heure, puisque Benka ne pouvait pas être parmi nous ce soir, puisqu'il est très investi dans la préparation de demain. Je propose que on balance cette interview et puis vous découvrirez de vous-même de quoi ça parle, mais ça parle de la perspective de demain et de comment ça s'organise.
Tout à fait.
Voilà. un petit jingle que j'ai extrait en faisant mes montages aujourd'hui d'abord.
Together we are strong enough to free ourselves from the injustice of capitalism.
Voilà.
Pas mal.
Oui, donc c'était ça que je voulais faire, à vrai dire. Alors, c'est le problème d'utiliser des logiciels propriétaires, c'est qu'ils ne fonctionnent pas aussi bien qu'on voudrait.
Salut Benka, donc tu as quelques nouvelles là au niveau des suites de la manifestation d'hier et ce que la police peut, on va dire, par mesure préventive, organiser par rapport à demain, la journée Reclaim Power. Donc, peux-tu un peu nous parler du comportement de la police et de ses arrestations et autres qu'elle peut faire en ce moment ?
Ouais, bah là c'est 5h15, on est au Climat Forum. Donc les informations que je récupère, c'est qu'il y a des arrestations préventives. Donc il y a Tadjo qui a été arrêté, qui est originaire de Berlin et qui bosse depuis des mois sur Reclaim Power. Il y a d'autres personnes apparemment du Danemark, j'ai pas eu de confirmation pour l'instant, qui sont également en arrestation préventive. Donc c'est toutes des personnes qui étaient impliquées dans la préparation de Reclaim Power. Donc cette idée d'interrompre la COP 15 pendant une matinée, d'imposer une assemblée des peuples sur la justice climatique, d'imposer un agenda alternatif au sein des Nations Unies. Donc ces arrestations préventives là, apparemment en ce moment il y a un raid à la Candy Factory, donc dans Norbro, c'est là où il y a le bike block qui se prépare pour l'action Reclaim Power. Et puis juste là, il y a une demi-heure ou trois quarts d'heure, où devant le Climat Forum, il y avait dans une salle à côté, il y avait une réunion. Où il y avait notamment Ségolène Royal pour les Français, avec des représentants des régions qui devaient signer un accord avec le PNUD. Et donc les désobéissants français ont fait un sitting devant l'entrée de la salle et il y a eu une vingtaine d'arrestations. Donc tout ça, ça fait partie de la stratégie de tension. Hier soir, on a couvert aussi Christiania et les problèmes qu'il y a eu là-bas. Juste après qu'on ait rendu l'antenne, il y a eu deux voitures qui ont brûlé à Ragnhild-Gade, donc dans la soirée, vers minuit, je crois, 1h du matin. Donc tout ça, c'est une logique de tension aussi, de la part de la police, hein, pour se montrer, pour être là en force. Ils ont commencé déjà avec cette loi contre les manifestants, avec des arrestations qui étaient rendues possibles de manière préventive, depuis le 2 décembre que la loi est passée. Et donc tout ça, c'est une forme d'oppression, de tension, pour empêcher la population de s'exprimer, parce qu'on en est arrivé à un moment où on est obligé de mener des actions directes, parce que les autres voies de négociation ou pour se faire entendre ne passent pas. Et donc on est poussé dans ce système-là, et en même temps, bah, y a une répression pour nous empêcher de prendre ce type d'initiative. Donc tout ça, c'est une logique du système qui n'a pas envie de changer. Et bah, nous, il faut qu'on s'organise. Donc là, il y a des groupes affinitaires qui se réunissent, il y a des techniques de messagerie qui ont lieu, il y a différents groupes qui vont aller à Reclaim Power selon différents types d'initiatives. Et donc tout ça, c'est notre réponse pour essayer de changer le système de l'extérieur et de l'intérieur, puisqu'il y aura une action à Reclaim Power qui va avoir lieu également depuis l'intérieur des personnes accréditées. Donc voilà.
Et comment tu vois la journée de demain, sachant que, dans ce que tu as raconté, la plupart des organisateurs de Reclaim Power ont été donc arrêtés aujourd'hui, du moins interpellés, de manière préventive. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de faire tomber toutes les têtes, on va dire, d'organisation de Reclaim Power pour perturber le fonctionnement de cette action de demain ?
Toutes les têtes, j'en sais rien. On ne sait pas exactement pour l'instant, enfin, en tout cas moi j'ai pas l'information de savoir combien de personnes ont été arrêtées de manière préventive. A priori, on pense qu'elles vont être relâchées demain dans la journée ou en tout cas dans les jours à venir, parce que pour l'instant elles n'ont rien fait. Et je crois qu'il y a quelque chose comme moins de 0,04% des personnes qui ont été arrêtées qui sont passées en jugement jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment très peu. Donc c'est vraiment que de la garde à vue pour bloquer, interrompre les personnes. Je pense que ça va être dur quand même pour le pouvoir et la police d'arrêter le mouvement, parce qu'on fonctionne selon différentes techniques, notamment les groupes affinitaires, sur des prises de décision consensus. Et donc on partage l'information. Donc il y a certaines personnes qui sont plus impliquées, qui passent plus de temps sur la préparation des actions. Mais on essaie de partager l'information, d'avoir le même niveau d'information chacun. C'est une forme d'égalité entre les personnes qui participent à l'action. Et puis il y a également différents niveaux de radicalité en fonction de ce qu'on va faire. Donc, par exemple, demain, il y a un parcours de manifestation qui est autorisé par la police, où il va y avoir les représentants du Sud qui vont prendre la parole après dans l'Assemblée des Peuples. Et donc, en fonction de... On partage l'information, donc c'est dur d'arrêter quelqu'un et de dire on va bloquer tout le monde. Et puis après, il y a différents niveaux d'initiatives où on peut s'investir dans les actions en fonction de différents niveaux de risque d'arrestation ou pas par la police, de confrontation avec la police, de la rencontrer ou pas. Et donc les personnes vont choisir leur technique. Et tout ce système-là est aussi fait pour essayer de contrecarrer ces techniques d'intimidation de la police et qui veulent nous arrêter, quoi, et nous stopper.
Et donc pour demain, vous attendez un nombre important de personnes ? Parce que les actions, enfin par rapport à la manif de samedi, où on était 100 000 annoncés, dimanche très peu, lundi 2000 à peu près pour la marche No Border, cet après-midi à l'action Via Campesina, on n'était pas très nombreux non plus, on devait être 500. Donc est-ce que demain il y aura beaucoup de monde ou on sera encore un petit millier ?
Les prévisions depuis quelques mois sont assez stables autour de 5 000 personnes pour la manifestation de l'extérieur. Avec les arrestations qu'il y a en ce moment, là il s'est mis à neiger, en plus il fait assez froid, donc ça peut être deux facteurs limitants. Et d'un autre côté, l'ONU aussi joue avec nous parce qu'ils ont fait un système d'accréditation qui empêche les gens qui ont un badge d'accéder au Bella Center, pour les ONG notamment. Donc les personnes qui ont ce badge d'accréditation qui ne vont pas pouvoir aller au Bella Center auront peut-être envie de nous rejoindre de l'extérieur. Et donc ça peut faire beaucoup de monde en plus. Et il y a un cortège particulier qui doit s'organiser, qui est en train de s'organiser avec ces personnes qui ont un badge. Donc on espère être quand même plusieurs milliers à être présents pour cette action-là. Et encore une fois, ce type d'action est vraiment particulière et unique. C'est-à-dire qu'on va pas aller, on n'a pas démarré depuis le 7 décembre à bloquer la COP, comme on peut faire des actions contre le blocage du G8, de l'OTAN, etc. Et là, on va essayer simplement d'interrompre cette séance pendant une journée, sur les deux semaines de négociations. Et ça fait 15 ans qu'ils négocient, faut pas l'oublier non plus. Et l'idée, c'est d'imposer un agenda alternatif. C'est-à-dire qu'il va quand même y avoir des discussions, mais qui vont pas se faire dans le cadre officiel de l'ONU, mais qui vont se tenir quand même à l'intérieur des Nations Unies, parce qu'on veut le faire là-dedans, dans cet espace-là, et également avec des représentants des partis, c'est-à-dire des représentants des gouvernements. Et on est déjà en contact avec des journalistes, des représentants des gouvernements, des scientifiques du GIEC, donc ce groupe international de scientifiques qui bosse avec l'ONU, pour tenir une assemblée ensemble avec des représentants des ONG, des peuples du Sud, des indigènes. Donc, c'est vraiment une technique tout à fait innovante. Et on est à 10 ans de Seattle, en fait, les 10 années des manifestations à Seattle. Donc le mouvement altermondialiste, anticapitaliste, écologique, solidarité nord-sud, etc., a 10 ans d'expérience derrière lui. On accouche de cette action-là en ce moment, et c'est un tournant. Donc même s'il y a quelques personnes qui peuvent être arrêtées, s'il peut y avoir des intimidations, s'il y a tout un arsenal de lois qui est en train d'être mis en place, ça ne va pas nous arrêter maintenant, quoi. On est dans un mouvement. Et donc il y a quelque chose qui s'est préparé depuis des mois, qui va arriver demain à Copenhague. C'est une étape sur notre route. Ça va être une date anniversaire. Franchement, le 16 décembre 2009 à Copenhague, ça va être un mouvement pour la lutte contre le changement climatique qui va compter. Mais ça sera qu'une étape.
Ben, je te remercie.
Oui, on te remercie Benka pour ces explications. Alors, juste un petit ajout, c'est que demain, en fait, il y aura Radio Indie Media en plusieurs langues, a priori en anglais, ça c'est sûr, pendant toute la journée, pour permettre justement d'échanger entre les différents, entre l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur du Bella Center, et ce qui se passe dans la manifestation officielle, ce qui se passe dans le bike block. Il y aura des interviews, on pourra simplement, on a des contacts, et donc il y aura des personnes qui seront appelées, des interviews en live des différents endroits depuis le studio, et donc vous pourrez suivre en direct vraiment ce qui se passe dans tous les endroits clés de la mobilisation, et ça pendant toute la journée, en tout cas pendant toute la mobilisation qui aura lieu dans la rue. Il y aura quelques personnes dans le studio.
Et est-ce qu'on aura, je pense, aux Portugais, aux Polonais, aux Pakistanais?
Donc, Je n'ai pas compris cette question. Laissons cette blague, cette private joke à part. Voilà, donc en tout cas, demain, programme spécial pour la radio. Il n'y aura pas seulement la boucle de toutes les émissions qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, mais il y aura aussi un vrai direct dans la journée. Donc est-ce que tu peux rappeler, Nicolas, à quelle heure commence cette action ?
Alors, l'action doit être aux portes de Bella Center à 10h. Il y a un point de rendez-vous pour le comment dire, le cordon ou le bloc bleu, qui est la manif déclarée et autorisée. Il est à 8h à la station, c'est toujours dur le danois, c'est une station de S-Bahn qui est avant Bella Center, c'est, excusez-moi, j'ai pas de papier sous la main et j'arrive pas à retrouver le nom, ça. Un truc comme Tardy. Mais si vous allez sur des sites qui présentent le contre-sommet, je pense que vous retrouverez le nom de la station. Excusez-moi, là, j'ai un trou avec le danois. Là.
Alors, Tarnby, nous dit Penka en direct sur le chat. Voilà, à la station Tarnby.
Voilà, c'est donc le RER danois.
Voilà, donc si vous êtes déjà à Copenhague, vous savez certainement de quoi on parle et vous avez certainement des papiers où c'est écrit. On va continuer sur une interview de Fanny. Tu veux présenter cette interview ? C'est toi qui l'as faite ?
Alors, Fanny est une camarade qui est accréditée, donc qui a le droit depuis 10 jours d'aller et de suivre les conférences à Bella Center. Et demain, elle sera avec nous pour l'action Reclaim Power. Et dans cette interview, elle nous parle donc un petit peu des négociations et des raisons pour lesquelles elle sera avec nous plutôt qu'à Bella Center.
Voilà, donc on écoute Fanny.
Donc, peux-tu te présenter 30 secondes ?
D'accord, alors Fanny Simon, militante à ATTAC à Toulouse. Et je fais partie de la délégation d'ATTAC là, pour les négociations sur Copenhague. Donc, j'assiste au Bella Center à tout ce qu'on peut assister.
Peux-tu nous rapidement nous décrire un peu ce qui s'est passé là ces deux dernières journées ? Alors, aussi bien au niveau des accréditations dont tout le monde parle, qui crée un scandale, et de l'autre côté, au niveau des négociations et de l'arrivée des chefs d'État bientôt, donc un peu les points de tension.
D'accord. Alors, en ce qui concerne les accréditations, le problème, c'est qu'il y a 40 000 personnes, même plus, je crois, c'est 46 000 le chiffre, 46 000 accrédités donc au sommet, sauf que le centre Bella Center ne peut recevoir que 15 000 personnes, ce qui fait que la première semaine, ça a été, mais la deuxième semaine, il y avait des queues, des files d'attente pour les accréditations, de l'ordre de 6 à 9 heures d'attente pour se faire accréditer. Et derrière ça, en fait, on a limité les accréditations. Donc, on est passé à 7 000 accréditations. On en était à 20 000 accréditations au niveau des observateurs. Et on est passé à 7 000 accréditations. Donc, chaque ONG a vu son quota diminuer. Et ça, c'était pour mardi et mercredi, donc demain. Et pour jeudi, on passe à 1 000 accréditations. Et pour vendredi, c'est le jour où il y a donc le haut segment, on passe à 90 accréditations pour les ONG. Donc, ce qui fait effectivement scandale, puisqu'on restreint la participation des ONG considérablement. Concernant les négociations, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une position des pays du Sud très forte pour le maintien du protocole de Kyoto. Et au niveau des financements aussi, donc ça c'est un des gros points revendiqués par les pays du Sud. Et au niveau des pays développés, eux, au contraire, demandent l'abandon du protocole de Kyoto pour un accord plus large, incluant les États-Unis, mais y compris les pays émergents comme la Chine. Et c'est un des points les plus discutés aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas du tout consensus là-dessus et des positions très fortes d'un côté et de l'autre. Donc pour le moment, on n'a pas plus d'informations sur ça. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de réunions informelles en petits groupes pour essayer de trouver un texte de compromis. Maintenant, il n'y a rien qu'à filtrer sur ces négociations, donc je pense qu'on en saura plus demain.
Alors, demain, c'est une journée donc Reclaim Power. Mm-hmm. Toi, tu es accrédité, mais tu penses la passer donc du côté de Reclaim Power. Mm-hmm. Peux-tu nous préciser un peu ta position, ce que tu vois dans Reclaim Power d'intéressant plutôt que dans ce qui va se passer à Bella Center?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a un accaparement du pouvoir notamment les pays développés. Et je pense qu'il faut aujourd'hui, en l'état des négociations aujourd'hui, il faut appuyer absolument les positions du Sud et dénoncer un peu ce que font nos gouvernements à nous. Donc je pense que c'est pas forcément en étant dans les négociations aujourd'hui qu'on peut agir, mais en dénonçant ce qui se passe dans ce centre-là. Maintenant, il faut savoir que demain, il y a plusieurs actions qui se profilent, des actions au sein de Bella Center et des actions à l'extérieur, et que tout ça va converger, enfin si on le peut, va converger à un moment donné. Donc il y a aussi des personnes qui font partie de ce mouvement-là, qui vont rentrer au Bella Center, mais pour pouvoir ressortir et faire le lien avec les gens qui sont dehors. Et c'est aussi, moi, si je vais dehors, c'est aussi pour dénoncer un peu le fait qu'on limite à maximum la participation des observateurs à ces négociations, et que ça, c'est pas des raisons de sécurité, c'est des raisons politiques. Et en termes de transparence, ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, tout le processus qui s'est passé ces dernières semaines pose quand même beaucoup de questions de transparence.
Voilà, merci Fanny. Donc, on a eu une petite information sur le site climate-justice-action.org. Donc, il y a un petit peu les explications pour le Blue Block, qui, dont le rendez-vous est à 8h du matin à la station de train Tarnby, T-A avec un petit O dessus, R-N-B-Y. Le Green Block a quant à lui un rendez-vous à 9h précise à la station de train Eurestadt.
Eurestadt,
donc c'est assez dur à prononcer, c'est un O barré R-E-S-T-A-D. Et sinon, si vous avez un téléphone portable, vous pouvez vous inscrire à un service qui vous enverra des informations par SMS sur ce qui va se passer, ce qui se passe en temps réel. Donc comme ça, vous pourrez avoir des informations. Il me semble que c'est quelque chose de gratuit. Donc vous rentrez juste votre numéro dans... quand vous allez sur le site, vous verrez le lien, vous cliquez dessus, vous rentrez votre numéro de téléphone et vous recevrez des informations par SMS sur ce qui se passe. Si jamais vous avez, par exemple, un instrument quelconque qui permet d'aller sur Internet, vous pourrez aussi écouter le stream en direct d'Indie Media Radio en anglais, peut-être un peu en français, qui sait, peut-être un peu en allemand, mais en tout cas en anglais de manière sûre. Oui, donc un petit fou rire, désolé.
Et sinon, je crois que c'est un truc qui est peut-être pas encore tout à fait réglé, mais qu'il faudrait qu'on ait pour une bonne diffusion de tout ce qu'on peut effectivement faire par la radio, c'est qu'il nous faut du matériel, je crois. Enfin, j'ai entendu parler d'une clé 3G pour la connexion Internet.
Alors, donc ça, c'était quelque chose, un projet, mais qui n'est pas forcément encore fixe, à savoir que éventuellement, il pourrait se faire que Radio Indie Media COP 15 soit diffusé en direct sur un camion sono, mais ça demanderait que quelqu'un prête son ordinateur portable et une clé 3G, donc une clé qui permet de se connecter à Internet via le réseau de téléphonie mobile, pour récupérer le flux et le diffuser en direct. En l'occurrence, on n'a jamais testé ça, donc si ça se fait et si ça fonctionne, c'est tant mieux, on ne vous garantit rien, mais donc peut-être que pour les personnes qui ne peuvent pas écouter elles-mêmes en transportant leur ordinateur portable sur la manifestation, c'est possible qu'ils puissent quand même avoir les informations d'Indie Media Radio par le biais des camions sonos. Voilà, alors, donc on va peut-être... ah oui, il y avait une petite annonce à faire. Dans les choses qui vont se passer prochainement, le 17, c'est-à-dire jeudi, à 11h, à Storobiet, donc S-T-O-R-O-B-I-E-T, il y a une réunion pour le camp climat français. Donc Benka en a déjà parlé hier, il y a un gros projet de préparer un camp climat pour 2010, avec entre autres un camp climat belge, un camp climat suisse. Oui. Et donc, pour qu'il y ait le plus de francophones possible qui s'investissent dans ce processus, on vous invite à venir à la réunion pour le camp climat. Donc, je répète, jeudi 17 à 11h du matin à Storobiet. S-T-O-R-O-B-I-E-T. Vous trouverez certainement l'adresse en regardant. Par exemple, sur le site avenirclimat.info, je pense qu'il y aura toutes les informations pratiques sur cette réunion sur ce site, ou en demandant au point d'information, à un des points d'information du contre-sommet. Voilà, on va faire une petite pause musicale, avec un groupe bien franchouillard qui n'existe plus trop, mais qu'on aime bien, les Bérus. Avec quelque chose... Oh tiens, d'ailleurs, ce n'est pas ce qui est dans ma playlist en premier. Voilà, coup d'état de la jeunesse. Merci les Bérus. Ouais, coup d'état de la jeunesse. Donc, on est presque au bout de notre grand programme du jour. Hein. On a un petit peu dépassé sur notre horaire. On pensait qu'on ne tiendrait pas et en fait, on s'installe bien, on se sent bien ici. Donc, une petite information, c'est que... cette nuit, il ne va pas y avoir que les différentes émissions qui ont eu lieu jusqu'à maintenant qui vont passer en boucle, mais il va y avoir un direct à 3h du matin par l'équipe anglaise qui va donc faire ça à 3h du matin pour que les personnes en Amérique du Sud et aux États-Unis, quoi, les gens qui sont sur un autre fuseau horaire, et que ça arrange mieux d'écouter un direct à 3h du matin, puissent l'écouter. Voilà, et je répète, donc demain, vraisemblablement à partir de relativement tôt, hein, puisque le premier rendez-vous est à 8h, je pense qu'à partir de 8h30, vous pouvez vraiment allumer votre poste et écouter tout ce qui se passe, la mobilisation en direct, et pas par la presse bourgeoise, mais par la presse de ceux qui luttent, à savoir Indie Media. Voilà. Je pense que... J'avais oublié un point. On a une interview encore, hein, donc on va vraiment beaucoup dépasser, sur un membre de l'armée des clowns. Donc on va vous le laisser écouter. Les questions sont en anglais, les réponses en français. C'est pas nous qui avons fait l'interview, mais c'est nos camarades anglais qui nous ont gentiment donné cette interview. Et puis ensuite... on vous laisse avec un petit peu de musique et on va organiser la playlist pour tourner jusqu'à ce que l'équipe suivante arrive. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Et puis, on se voit dans la rue. Et ensuite, demain soir, à 23h, avec le retard syndical qui peut s'intégrer entre... Mais en tout cas, demain à 23h, on sera là à nouveau avec des nouveaux sons, dans la mesure du possible. Mais en tout cas, pour vous parler de ce qui s'est passé demain. Voilà, donc, on avait dit quoi ? Voilà, les clowns. Oups.
Okay, so if you could introduce yourself, tell us who you are from the... Okay.
Sous-capitaine Brochet de l'armée internationale des clowns insurgés et rebelles. Donc lundi 14, la Clown Army a décidé de venir en aide aux différents pays européens et de durcir leur politique d'immigration et de contenir le flux des réfugiés climatiques. Donc on a installé des périmètres de sécurité autour de l'ambassade de France, de Grèce et d'Ukraine. Voilà.
Ok.
Ok. Donc c'était hier, lundi, à 11h, des périmètres de sécurité ont été installés autour des ambassades de France, qui a laissé porte close. Voilà. Donc pendant l'installation du périmètre de sécurité, un clown déserteur de l'armée des clowns a essayé de s'introduire clandestinement dans l'ambassade pour se réfugier climatique le premier. Heureusement que les clowns tristes de la police danoise nous ont aidés à le maîtriser et l'ont retenu pendant 4 heures pour lui expliquer que c'était pas bien de vouloir passer avant tout le monde. Voilà, bon, il a été libéré, mais je pense qu'il a bien compris la leçon. Il fera attention maintenant à ce qu'il fait. Voilà, donc les raisons de la présence de l'armée des clowns ici à Copenhague, bon, c'est pour aider un peu ce grand supermarché du carbone. Donc essayer de sécuriser un peu tout ça. Voilà. Je crois qu'il y a eu de l'achat et de la vente de carbone qui s'est faite, mais je crois un peu clandestinement. Bon, voilà. Je sais pas si. Je crois que c'est officieux, hein, c'est pas officiel. L'armée des clowns refuse toute responsabilité autour de ce marché du carbone. Mais bon, on est là pour aider en même temps. Je crois que les projets aujourd'hui, c'était. Bon, on cherche. Je crois qu'il y a des clowns qui sont partis dans Copenhague pour essayer de retrouver Ronald McDonald pour procéder à son arrestation. Car il n'a pas vraiment respecté le traité international des clowns en matière de respect de l'autre, de respect de la terre, de respect tout court et d'amour, qui est la base même de l'appel des clowns. Nous, on fait la guerre avec amour.
Okay. Voilà. And why did the clown army come to Copenhagen? Give us a bit of.
Mais l'armée des clowns, donc bien sûr le miroir de la guerre internationale. Donc nous aussi on participe à cette guerre. On est là pour aider les clowns tristes à installer le désordre. Voilà, nous sommes un miroir de cette armée triste. On a plutôt envie de l'égayer, de l'aider à retrouver l'amour et être dans le camp de l'amour plutôt que celui de la guerre. Donc on recrute, hein, donc si tous les policiers et les militaires du monde entier qui souhaitent rejoindre l'armée des clowns sont les bienvenus. Bon, il faudra qu'ils laissent leurs armes à l'entrée, on les aidera à trouver des plumeaux, des balais à toilette, ce genre de choses, des armes de dérision massive. S'ils font preuve de bonne volonté et qu'ils embrassent tout le monde, peut-être qu'on leur fournira un nez rouge, mais qu'ils fassent preuve de bonne volonté.
How do people on the streets who see the clown army, how do they react to you? Well, what is the reactions from people, from the police as well? Because you get very up close to them sometimes.
Alors parfois, c'est vrai qu'on est très près des gens. Bon, les gens aiment les clowns. Les clowns aiment les gens. C'est une interaction intéressante. Beaucoup d'amour entre les clowns et les gens, les clowns. Les policiers ont parfois du mal à comprendre qu'on les aime. Donc, comme hier, c'est vrai que c'était un déserteur, donc qui s'est fait arrêter, plaqué au sol, menotté. Et apparemment, il a subi une légère lésion sur la main quand les policiers ont essayé d'enlever ses menottes qui étaient un peu trop serrées. Ils l'ont coupé malencontreusement avec le couteau pour le libérer. Bon, apparemment rien de grave, mais ça lui servira de leçon, je pense. On ne déserte pas de l'armée des clowns.
Cool. And are you looking for more clowns to join you tomorrow? You could call out for international clown army.
Écoutez, l'armée des clowns est très très organisée, très secrète et clandestine. Donc les projets sont maintenus secrets jusqu'au dernier moment. Donc je peux pas vous en dire plus.
Okay, cool. That's fine.